Africa.
La discothèque de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Braza.
Bonjour, 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 mon cher Robertito, de retour à la maison.
Eh oui, à la maison. Alors, de la lagune est brillée à Abidjan, au bord de Seine, sous la pluie de Amanou. C'est vrai que c'est une transition parfois difficile.
Ouais, surtout quand tu dois ajouter ou enlever 2 heures.
Oui, tout à fait. Mais alors, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on ajoute du bonheur, parce qu'on parlait de se retrouver en vrai. Et là, c'est le cas.
Ouais, ouais, la chose promise, voilà, et tout ça. Et nous sommes en vrai live encore avec plaisir ce dimanche matin. Et réellement, ça, tu nous as manqué physiquement. On était par la voix, mais on n'avait pas le parfum, les odeurs
et on n'avait pas la chaleur du studio. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas être ailleurs, parce que cette semaine, quand même, quelle semaine aussi extraordinaire, parce que ça groove et grave du côté du Grand Rex.
Ah oui, ben, y a beaucoup de choses. De temps en temps on descend, de temps en temps on est artiste, de temps en temps on est à la radio. En fait, on est occupé. L'essentiel, ce qu'on peut vous souhaiter ce dimanche matin, c'est vraiment d'être occupé, comme ça on voit pas passer le temps.
Et oui, le temps qui passe, et puis certains regardent déjà leur montre de Amanou et leur chronogramme, puisque les vacances de la Toussaint, eh bien c'est déjà la semaine prochaine. Alors on sait pas si évidemment Grève FM sera en route, puisque nos amis les cheminots ont ouais. décidé de donner de la voix.
Ah ben tiens, donc, il y a quelques jours là, avant-hier d'ailleurs, hein, j'étais pas loin d'ici et je peux te dire que les pompiers ont donné de la voix et de la grosse caisse. Hein.
Et oui, après tout, c'est quand même la place de la Bastille.
Hein. Ben ouais, ça bouge toujours, ça tourne, enfin c'est une place qui vibre. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. La révolution, c'est la place de la révolution. Tout ce qui passe autour, c'est toujours révolution. Mais nous sommes dans la révolution musicale permanente tous les dimanches.
Hein. Et oui, une belle révolution à vivre amicalement et surtout familialement à la maison.
Mais oui, pour les papis.
Les mamies, les papas, les mamans, sans oublier
la progéniture. Alors cette fois-ci, sans délai.
Et oui, et Hugo est ravi parce qu'il se dit, ah, ben voilà, on y était presque, c'est un autre feeling.
Ouais, mais on a la chance d'avoir les deux quand même.
Oui.
Au moins, tu as inauguré quelque chose. Quand tu vas là-bas pour autre chose, tu sais, tu es sûr qu'il y a un studio là-bas. Moi, je suis sûr que bon, ben, l'émission continue, quoi.
Et oui, elle continue. Et puis, occasion d'ailleurs de dire qu'on donnera tout à l'heure, pendant la Mara Boutique, une autre nouvelle par rapport à une autre fréquence sur le continent.
Mm-hmm, une bonne nouvelle d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, ben, il y a 30 ans, quelque chose s'est passé.
Et oui, quelque chose d'immense, de très triste, mais qui résonne encore avec des riffs de guitare.
Quelqu'un que j'appelle un monument, il y a quelques-uns qui sont des monuments, mais vraiment au niveau artistique, musical, un grand monument s'en est allé à cette époque-là faire le bœuf au ciel. Il s'agit de Franco de Mi-Amor. J'ai ajouté Mi-Amor, hein, parce qu'on l'appelait première manière, c'était Franco de Mi-Amor.
Et Luambo Franco Makiadi, pour ceux qui sont du côté de la République démocratique du Congo, ou alors sur la rive d'en face, à Brazzaville, ou partout ailleurs de Amanou. Car Franco, évidemment, c'est une mémoire vivante pour l'histoire de la musique africaine.
Ah ouais, ça c'est pour tout un chacun. Et en fait, comme je le dis toutes les semaines, on vous raconte probablement les histoires de nos héros. Il y en a qui sont partis, mais il faut qu'on en parle tout le temps, parce que comme ça, les nouvelles générations vont perpétuer cette histoire-là. Parce que si on n'en parle pas, ils sont alors vraiment disparus. Et ce serait dommage qu'on ne sache pas d'où on vient.
Et d'où on vient, c'est cette terre riche en musique, et en l'occurrence ici le bassin du Congo, une belle histoire de Franco de Amanou qu'on va raconter alors pendant toute cette émission, parce que le 12 octobre 89, il tirait sa révérence. Une semaine après, et on vous l'avait dit la semaine dernière, on allait prendre nos temps de concocter le menu. 30 années après, Franco est toujours là dans la musique, et aujourd'hui on écoutera que du Franco.
Ah oui, ça vaut la peine de lui consacrer réellement toute une émission. Ça suffit pas, mais c'est déjà quand même pas mal. Pendant 2 heures, on va avoir du Franco par-ci, par-là, à droite, à gauche, en arrière, en avant. Mais avant cela,
une petite page de pub.
Mm-hmm.
Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Africa Radio, Doyen Manou et toute la planète musicale qui, le 12 octobre 89, apprenait ben, vraiment avec beaucoup de tristesse la disparition de Luambo Makiadi Franco. Mais c'est vrai que sa musique continue au-delà du temps.
Et on a eu quand même du mal à admettre, parce qu'il était tellement costaud ce monsieur, que tu avais du mal réellement à imaginer son départ si précipité. Oui, c'est toujours précipité, quoi, disons. Mais enfin, il n'est pas parti tout à fait, puisque nous avons la magie du fait qu'on peut écouter Franco quand on veut, déjà à la radio, puis dans les disques que vous pouvez vous procurer encore. Hein, il y a énormément de disques de Franco. Alors, après cette émission, nous espérons que vous allez vous précipiter pour compléter votre discothèque en matière de Franco.
Et Dieu seul sait que son patrimoine musical est immense. Franco qui tire sa révérence du côté de Montgodin, du côté de la Belgique. Alors, c'est étonnant parce que nous, à l'époque de sa disparition, on est stupéfait parce que Franco, il fait littéralement partie de la maison. En fait, on voit les vinyles, on voit les disques que jouent évidemment les papas, les papis. Et puis, on se dit, Franco, il est toujours là. Enfin, il peut pas partir comme ça. Et je me suis souviens, Doyen Manou, de la tristesse vraiment qui régnait, surtout au niveau évidemment des parents, mais de mes frères et sœurs aînés, qui se disaient, mais c'est terrible.
Tous les pays où il est passé en Afrique, ça a été une bombe tout de même, parce que il a tellement bercé des générations. Il avait, disons que le don de la guitare joyeuse, hein, il n'inspirait pas la tristesse quand il jouait. Il avait ça en lui, comme les docteurs Nico, les gens qui avaient des doigts en or, quoi, ou Magic Finger que tu as chez Bembea Jazz.
Oui.
C'est des gens qui avaient un don d'approche de six cordes unique, hein.
Et c'est vrai que ces six cordes, il les mettait bien en avant avec le côté marketing de l'affaire que tu nous avais raconté chaque fois que des instruments arrivaient ou chaque fois qu'il avait une nouvelle recrue dans son groupe.
Ouais, mais c'est-à-dire c'était en même temps un homme d'affaires et question publicité, il était en avance par rapport à tous les autres parce que il était lui-même son propre publicitaire. Il n'avait pas besoin de louer une agence. il suffisait qu'il aille en Belgique enregistrer sous le compte d'ailleurs d'African Jazz. C'est terrible leur histoire, hein, parce qu'ils étaient concurrents sur scène. African Jazz, Kabasele, OK Jazz, Franco. Mais pour les éditions et pour les disques, c'était Kabasele qui avait le label sur lequel enregistrer Franco.
Ça montre quand même une belle unité, et d'ailleurs, et on reviendra après sur des collaborations, parce qu'on a prévu des duos et des morceaux à plusieurs dans le second volet de l'émission, mais comme toute histoire, il y a un début, et le début de l'histoire de Franco, c'est celui de ce gamin qui naît dans un village dans le sud-ouest du pays, à Sonabata, qui a un papa qui est cheminot, et il insiste, une maman qui cuisait du pain à la maison.
Ah, donc il y avait de la gourmandise dans les odeurs, des odeurs, parce que Franco aimait bien se balader à la cité pour... Alors lui, c'était, en dehors de la guitare, c'était le roi de la brochette, hein, il adorait les brochettes.
Les camoudélés.
Les camoudélés, oui.
Et alors elles vont au marché, et puis un tournant, ce tournant, c'est la famille qui déménage du côté de Léopoldville, comme on le disait à l'époque, et on sent déjà là une émulation, parce que le jeune Franco arrive et puis voit cette capitale qui foisonne, qui bourdonne avec des grandes personnalités, les Dewayon et autres, évidemment il y a aussi des gens comme Grand Calais qui s'affirment. Lui faisait déjà ses classes déjà à la fin des années 50 et même au milieu, parce que le hockey jazz sera créé en 56. Est-ce qu'on peut dire qu'il était précoce?
Oui, parce qu'il avait... D'abord, ça suppose qu'il avait ça en lui. Et puis, il avait une autre équation, Franco. Être populaire rien qu'en jouant de la guitare, c'était déjà une prouesse. Hein. Être devant, en général, les instrumentistes sont toujours derrière. Il a réussi à être devant tout en chantant, en plus, un peu comme George Benson. Et sa guitare faisait un tout avec lui, c'est-à-dire je crois pas que Franco aurait été saxophoniste, quoi. Il avait pas l'allure de saxophoniste, il y a que la guitare qui lui convenait, quoi. Et il a réussi cette double équation, être populaire en chantant et en jouant de la guitare. C'est pas toujours évident. Les meilleurs instrumentistes, en général, ils accompagnent ou des chanteuses ou des chanteurs. Donc, il avait cette histoire en lui. Et se faire une place à Léopoldville à l'époque où il y avait une foison de guitaristes, hein, quand même. Si on commençait à citer le nombre de guitaristes qui étaient derrière les artistes à cette époque-là, c'est, alors sortir de là et avoir un style propre, qu'on remarque quand Franco tape un accord, on sait que c'est lui. Alors ça trompe pas, quoi. Je veux dire, il avait donc cette dualité en lui.
Et ce rapport avec la guitare, c'est le rapport avec un instrument qu'il tient et qu'il fait parler à sa place. Et on parle du chanteur, on parle aussi du sociologue en musique, parce que Franco, quand il chante, ben souvent il y a une bonne partie où il parle, il s'adresse tout simplement au public et il incite des fois les autres chanteurs, les autres voix de ses ensembles respectifs à prendre le relais. C'est vraiment le maestro qui donne la conduite directement au micro.
Il donne le là, il est auteur, effectivement, il est auteur, il impulse. Il y a toujours des histoires à raconter avec Franco, il y avait toujours une histoire, hein. C'est la femme qui est partie ou la femme qui est revenue, enfin bon, quelque chose. C'est le copain qui a piqué la femme ou bien lui l'a piqué. Il y a toujours un truc qui se passe autour de Marie Roger, Marie machin, quelque chose comme ça. Mais ce sont des petits contes et aux autres chanteurs qui sont dans l'orchestre de développer. Hein, il lançait une idée ou il la finissait ou bien il laissait le soin aux gens qui étaient autour de lui. Il y avait toujours des gens de talent d'ailleurs, les paroles, les paroliers au bassin du Congo, ils ont une façon de raconter des petites histoires, des scénettes quoi.
Et ce sociologue qui est Franco Luambo Makiadi, c'est aussi quelqu'un qui a une vision musicale qui est tout de suite très originale, parce que il est bercé par les sons qui viennent évidemment de la dimension afro-cubaine, et ces sons vont provoquer en lui l'idée d'un groupe, et d'un groupe alors en mode espagnolade, parce qu'en 56, au moment où il crée l'Oké Jazz, on est quand même dans l'émanation de ce qui était Il Grupo Oké Jazz, et on le voit derrière des énormes bongos. Là, il avait encore une taille assez fine,
oui, oui.
Et des percussions qui lui arrivaient là, dans la dimension de ce qui se faisait alors, cha-cha-cha, le son, etc. Et puis des paroles déjà qui incitaient à faire la fête, comme « Si tu bois beaucoup » ou des morceaux comme ça.
Oui, et puis alors, il était spécialiste, disons, de comment on appelle ça, la musique à mineur. C'était un spécialiste des boléros, des rythmes lents. Et c'est pour ça qu'on l'appelait d'ailleurs Franco Demi-Amor, hein, première manière. Hein, c'est que il avait le rythme et les paroles qui berçaient ces demoiselles, hein, les matinées dansantes et tout ça. Il savait bercer les matinées dansantes à cette époque-là, donc Franco Demina. Et puis, au fur et à mesure, il est sorti de cette sphère afro-cubaine pour créer lui-même un compromis entre le piano du cha-cha-cha et la guitare. Et ça, il partage ça avec Nico, d'ailleurs. Ils ont réussi ce décalage que ne pouvait faire que le piano à l'époque, à transposer ça à la guitare.
Et côté arrangement, c'est quand même quelqu'un qui est aussi un très très grand monsieur, parce que Franco aime les sonorités mélangées, il se livre à des expériences, il cède évidemment au clin d'œil de la guitare hawaïenne comme au début des années 60, tout le monde, mais surtout c'est un personnage ambitieux, car à côté de lui, il y a quand même de très grandes écoles, l'école de la rumba, l'école de certains maîtres, et on peut le dire, Don Manu, est-ce que Franco, avant d'arriver au grand grand moment qui sera les années 70 avec l'Oké Jazz, n'aura pas été en mode formation de près ou de loin en regardant Calais et tous les autres?
Si, si, ils se regardaient tous d'ailleurs, ils adoraient les cuivres. Hein, ils avaient tous les deux des cuivres et les arrangements de cuivres. Même s'ils n'écrivaient pas la musique, ils savaient exactement ce qu'il attendait des cuivres. Et ceci, il ne faut pas oublier qu'à côté de lui, il y avait un compagnon qui était de l'autre côté. Hein, saxophoniste, flûtiste. Et ils ont d'ailleurs créé l'Oké Jazz ensemble. Hein. L'Oké Jazz, c'est pas une création uniquement de Léopoldville. Il y a Brazzaville à côté. Hein.
Avec Jesus Spiritus.
Voilà, c'est pour ça qu'il avait aussi l'amour des cuivres.
Et ces cuivres sont arrangés de fort belles manières et ils seront luxuriants, pour utiliser ton terme, Don Manu, dans la période, dans la décennie 70. Alors il n'est pas seul sur scène, il n'aime pas du tout être isolé. Dès le départ, on entend déjà du monde, y compris dans les premiers succès qui qui sont évidemment en espagnol, puisque c'était la mode.
Oui, alors, il partage ce truc-là avec Fela, parce que Fela avait énormément de monde aussi sur scène. Hein. C'était une machine terrible. Tu n'imagines pas Fela en train de jouer en quintet ou en sextet, quoi. Ça pouvait pas. Franco pouvait pas non plus jouer en quintet, en quartet et tout ça. Ça n'existait pas. Le côté luxuriant était là. Il fallait qu'ils soient nombreux pour avoir cette puissance. D'où d'ailleurs le tout puissant.
Ah oui.
Ça a un sens quand on parle de hockey jazz. Tu entres hockey, tu sors KO, hein, quelque
oui,
chose comme ça.
La fameuse maxime.
Voilà. Donc il y avait la puissance réelle. Qu'impulsait tout ce monde sur scène. Hein.
Et on voit bien et on entend l'évolution, et dans le premier chapitre qu'on va vous proposer ce dimanche, des morceaux comme Mi Corazón en 56, ou alors La Rumba Ok en 57, montrent aussi l'agencement des choses. Et il y a aussi une joie de vivre qui est perceptible de Amanou. On a presque envie de dire, il ne manque plus que le visuel avec les verres bien remplis, les brochettes, les jolies robes,
les
jolies
costumes. Tu peux l'imaginer. Et puis tu vois les bars qui étaient à ciel ouvert à cette époque-là, et les femmes qui avaient trois pagnes, alors avec une glace, une énorme glace. Les femmes de danser devant les glaces. Et puis le chic, c'était de défaire un des trois pagnes. Il y avait un chic là-dedans. Et les bouteilles, évidemment, les femmes, quand elles arrivaient, ici, la table, il n'y a pas un certain nombre de bouteilles. Elles ne s'arrêtaient pas, hein. Si tu venais pour une bouteille de bière, tu avais perdu l'affaire.
Et dans le souvenir de ces années de braise, dans les années 60, sont des succès comme Matinda. Il fallait évidemment toujours chanter ces dames. Et on voit bien là que le son s'est étoffé. On sent aussi déjà que le lingala est beaucoup plus mis en avant. Il faut pas oublier quand même que en cette période, il est quelqu'un qui est aux commandes du pays, en parlant de Mobutu Sese Seko. Et Franco va évidemment aussi se mettre en avant du côté auteur, compositeur, musicien, mais aussi du côté emblème. Il est tout de suite conscient de la place qu'il occupe, de la puissance qui est la sienne au niveau des musiciens parmi lesquels il veut compter absolument.
Ah ben, il avait la lucidité quand même. Hein. Dans ces années-là, il avait déjà la lucidité. Et la puissance qui émanait de lui, quand tu allais à Léopoldville, il suffisait d'interroger les enfants. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de son côté de publicité. Franco avait le don d'en ramener des instruments d'Europe, ce qui était rare à cette époque-là, tout un orchestre. Et alors, il avait loué un étage dans un immeuble et il exposait tous ses instruments. Et alors les enfants voyaient ou regardant ces instruments, c'était eux qui allaient colporter au quartier le fait que Franco est revenu avec
de la street promo, voilà, avant l'heure.
C'est les enfants qui lui faisaient la pub, tranquillement.
Et il touche un public très large, un public de gens de la base, des gens du peuple, lui qui vient de Sonabata, qui aime ce côté populaire. Ensuite, vont se cultiver des gens comme Papa Wemba, mais il plaît aussi à une élite. Et c'est vrai que dans les années post-indépendance, tout le monde écoute du Franco, qu'on soit à Bangui, qu'on soit à Douala, qu'on soit à Abidjan. Il est tout de suite cet artiste dont les derniers disques doivent être à la maison pour être à la mode.
Oui, une particularité au Congo, les hommes politiques, les politiciens, venaient dans les bars et réglaient leurs problèmes, d'ailleurs dans les bars, en offrant des caisses de bière aux musiciens et tout ça. Tout ce monde-là, dès que tu étais populaire, tu étais attractif non seulement au public, tu étais également attractif aux politiciens. C'est eux qui venaient, alors tu voyais les Bomboko, tu voyais tous les grands de l'époque qui arrivaient au bar. Voilà, donc ils ont toujours eu cette histoire avec les musiciens. Quand ils ne venaient pas au bar, mais quand ils étaient invités à l'étranger, ils prenaient un orchestre avec eux, ils partaient avec un orchestre toujours. Hein. L'histoire de Kabasele, d'Indépendant Tchatcha avec Lumumba, relève bien de cette histoire-là. Quand Lumumba est parti la première fois pour la table ronde, eh ben dans ses valises, il y avait Kabasele. Et Kabasele qui est entré au studio pour faire tout ce que les gens savent sur Indépendant Tchatcha.
des moments d'histoire. Mmh. Et dans le premier chapitre de cette matinée consacrée à Franco, il y a aussi un morceau comme Tembe na Tembe, Toko Kutana, qui paraît en 70, et l'année 70, qui est une sorte d'année charnière aussi pour lui, parce que finalement, Franco est la personne qui fait la une des manchettes, qui fait la une de l'actualité dans ce pays. Franco également, qui devient une personnalité publique. On parle de celui qui se sera converti à l'islam au milieu des années 70, qui va se déclarer musulman, qui va devenir Aboubakar Siddiqui, ensuite qui reviendra à la foi catholique. Il devient vraiment un personnage très people.
Il a fait fort avant les Bongo. Hein. Ali, qui s'appelait Alain, ben, n'existait pas encore. Le père Bongo,
Albert Bernard,
Omar lui-même, voilà. Comme les musiciens américains, il y en a qui avaient pris les noms.
Cassius Clay, moi.
Voilà, tout ça, beaucoup de musiciens aussi. C'était l'époque où tout le monde abandonnait la religion chrétienne pour aller parce que ils trouvaient pas leur compte. Donc ils pensaient trouver leur compte dans la religion musulmane. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont revenus à la maison.
Oui. Mais une chose lui sera restée, lui c'est la musique. Et grâce à Hugo, on va écouter donc la première partie de ce jukebox. Et vous allez voir que la voix change, le son change, mais que l'émotion est toujours là.
Voilà, alors donc Hugo va nous mettre une tune dans le...
Bastring.
Le jukebox de Manu Dibango.
Avec Robert Tito. Sur Africa Radio.
Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Sengate,
La discothèque de Manu Dibango
sur Africa Radio.
Bongo
sur Africa Radio.
Africa Radio de Manu se souvient du grand Franco Luambo Makiadi, alors qu'il vraiment, lui, est entré au panthéon des artistes directement.
Ouais, moi, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie, c'est d'avoir pu rencontrer tous ces monuments-là au bon moment, en fait. Le fait que je suis allé à Bruxelles alors que j'étais plutôt francophone et que bon ben les Congolais n'avaient pas droit, les Congolais belges n'avaient pas droit d'aller au Congo et que nous on était là avec les Fonseca, avec les Fax Clark et tout ça, et qu'on a vu arriver l'histoire se passer devant nous sans qu'on sache exactement que c'était l'histoire. Je dis que nous on était dans les clubs quand la table ronde est arrivée. Et que le roi Baudouin recevait les Congolais, alors qu'avant, ils n'avaient pas droit de venir. Il n'y avait que des boys congolais, les Belges qui allaient au Congo. Et quand ils revenaient, et pour montrer à leurs amis qu'ils ont réussi, ils amenaient leurs boys. Les seuls Congolais qui étaient là, c'était des boys, tu vois. Et quelques maigres étudiants à Louvain. Donc nous, on a assisté à tout ça... dans nos cabarets, sans savoir réellement que l'histoire africaine, une partie en tout cas de l'histoire africaine, était en train de se passer autour de nous, quoi. Donc c'est une chance extraordinaire. Et surtout, quand les musiciens congolais, parce qu'on avait déjà eu un aperçu de disques congolais ici, dans les universités ici, là, il y avait un ou deux magasins qui vendaient des disques congolais ici à Paris. Dans les foyers africains, il y avait des gens qui achetaient non seulement les disques cubains et Seco, hein, le label Seco, et puis un label qui venait du Congo, donc, et on a écouté la musique congolaise. C'est comme ça, mais jamais on n'aurait pensé avoir la chance de rencontrer les musiciens du Congo. Alors moi, le fait que je sois à Bruxelles a fait que je les ai rencontrés, je les ai vus venir. Et les Rochereaux et tout ça, avant qu'ils soient taboulés, étaient d'abord Rochereaux. Enfin, j'ai vu tout ce monde-là, et Franco est venu, et je l'ai rencontré, quand il faisait ses enregistrements, c'est au même studio que Kabasele faisait ses enregistrements. Chez Deka, donc.
Et surtout avec beaucoup plus de courtoisie qu'aujourd'hui, il faut le rappeler. Et en parlant du personnage précoce qui était Franco, quand on imagine, il a vu le jour le 6 juillet 1938, il crée le groupe Ok Jazz en 56, c'est-à-dire qu'il est quand même jeune et les choses s'accélèrent de manière incroyable. Oui. À la fin des années 60, début des années 70, il est déjà une identité remarquable de la musique congolaise. Il y a le doyen Anissé Mobé Fanciama, d'ailleurs, paix à son âme, à qui on pense tout le temps quand on évoque Franco, qui m'avait dit, oui, mais Robert, n'oublie pas, Franco a à côté de lui quelqu'un qui est aussi un modèle, quelqu'un qu'il admire, qui est son frère Bavon Siongo, alias Bavon Marie-Marie, qui lui aussi était musicien, auteur, compositeur, et qui disparaîtra d'ailleurs tragiquement, et à qui Taboulé rendra hommage sur la scène de l'Olympia au début des années 70. Ça montre donc la fratrie qui existait entre eux.
C'est vrai qu'il y avait ce milieu-là. Et le fait, ils ont eu tellement de chance, les Congolais, le fait qu'ils parlent la même langue, le Lingala partout, c'est une force économique extraordinaire. Je veux dire, quand tu fais un disque, tu es sûr, à la limite, d'être disque d'or chez toi, parce que tout le monde comprend ce que tu racontes. Hein, ce que nous avons comme problème dans nos pays, c'est que tu peux être populaire à Douala, ne pas l'être à Yaoundé, parce que c'est déjà autre chose. Garoua, n'en parlons pas. On est tellement dispatché économiquement parlant, c'est plus difficile pour un non-congolais de réussir. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont toujours eu la réussite avec eux. Ils ont eu la masse avec eux, et du coup, le savoir-faire était beaucoup plus précoce chez eux que dans nos pays, à nous, francophones.
Et c'est vrai que le savoir-faire, Franco le partage avec des maîtres, avec des grandes voix qui sont à côté de lui. Cet Ok Jazz qui est vraiment après sur un podium absolument incroyable à l'approche des 20 ans du groupe, à l'approche de l'an 76, eh bien, il s'entoure de personnalités venues d'ici ou d'ailleurs. On a des gens comme le prince Ulouma Biala qui arrive de l'autre côté de la rive, qui sera d'ailleurs famille plus tard avec Franco, qui sort le tube Kamikaze. On a Franco qui est vraiment, alors là,
oui, dans déjà des titres qui... Il y a des kamikazes, il y a du japonais. Plus tard d'ailleurs, les japonais d'ailleurs, ils vont venir à la cité. On va les retrouver plus tard, une décennie après, on va les retrouver à la cité. Donc il avait des titres comme ça. Comme... Maintenant tu as... on parle d'Arafat là, mais il y a eu... Mopao, Sarkozy, voilà, donc tous ces trucs-là qui agrémentent, c'est un peu le piment ou le sel autour de la musique. Il y a la musique elle-même, mais tous ces petits trucs-là font rigoler les gens et ça fait vendre.
Et ce qui fait vendre, c'est que dans le groupe, tous ceux qui sont autour de Franco sont aussi stars à leur manière. Il y a des voix, quand on parle des Ndombe Opetum, lorsqu'on parle de Madilou System, lorsqu'on parle de Joski Kamukuta.
Lui aussi,
c'est un sacré bonhomme. Et puis, comment ne pas imaginer aussi le cas Simaro, Lutumba, qui s'en est allé récemment. Et Franco est très heureux d'ailleurs, comme Tabouleï en face avec son Afrizain international, d'avoir, mais comme un peu dans une équipe de foot, des attaquants de pointe, des gens qui sont vraiment la crème de la crème des musiciens.
Tu n'entrais pas là-dedans si tu n'avais pas une particularité, parce que la concurrence était quand même rude. L'émulation en même temps, c'est quand on commençait à parler de toi, à ce moment-là, Franco ou Kabasele te prenaient au sein de l'orchestre. Et en fait, si tu étais malin, tu t'en sortais plus tard. Mais eux, ils profitaient de ton jeune talent pour, tu sais, un peu vampire, quoi. Tu vois, on suce le sang des jeunes, toujours.
Avant qu'ils prennent la lumière.
Et après, à toi de te débrouiller d'être dans la lumière après. Mais il y avait une émulation certaine.
Et alors, le pic des 20 ans d'âge, des 20 ans du tout-puissant, donc OK Jazz, va être l'occasion d'un album magnifique où on voit Franco avec la Bacoste. On n'oublie pas qu'on est dans le Zaïre de l'époque, avec son visage en grand, au milieu des fleurs. C'est un double album qui est remarquable. Et où alors on prend son temps dans les morceaux. Et c'est vrai que là, l'OK Jazz atteint sa plénitude. On a des timings de 9 minutes 56, de 14 minutes 32. Le tout-puissant OK Jazz se déploie, y compris à la télévision de Amanou, dont tu disais que pour Mobutu ou pour les autres chefs d'État de la région...
Lui-même qui sortait de la télévision...
Comme descendu du ciel, était devenu aussi un instrument politique. On est 2 ans après le combat du siècle, on doit répondre culturellement à Sékou Touré ou à Oufouette Boigny de l'autre côté. Franco, comme tous les autres, devient emblème de ce pays qu'est le Zaïre.
C'est vrai, ben quand tu parles de 9 minutes, il faut multiplier par 2, parce que sur scène, le morceau était toujours joué 2 fois. La première fois, vraiment tout le morceau, les gens applaudissaient et l'orchestre recommençait le morceau. Donc c'est pas 9 minutes, c'est 18 minutes.
Et des titres comme Liberté montrent aussi la plume que peut avoir le grand maître. Des morceaux souvent à 2 lectures, parce que liberté que l'on donne à une femme qui veut s'émanciper, liberté que l'on aimerait avoir beaucoup plus sur le temps du propos politique, dans un contexte qui n'est pas évident. Il faut toujours lire entre les lignes.
Ah ouais, il faut lire absolument. C'est un peu ce qu'il y avait avec les églises aux États-Unis. Pourquoi est-ce que beaucoup de musiciens allaient pour le gospel? Parce que la lecture de la Bible, les mots de la Bible avaient une autre consonance et une autre signification pour les Noirs que ce qui était écrit. C'est évident qu'ils réglaient leurs problèmes à travers les mots.
Et les mots de Franco sont ceux d'un sociologue où il dépeint des personnages dans le morceau très impoli. Il parle de ce monsieur qui se déchausse et malheureusement qui, dans les chaussures ou les chaussettes ne sont pas de manière olfactive très juste, qui mange à la table des autres mais qui règle pas l'addition. Enfin, chacun se retrouve
Chigo
toujours.
Version Franco.
Et tout le monde aime ça parce que finalement, vraiment Franco quand il croque comme ça des personnages. Il y en a toujours un dans le quartier qui ressemble. Donc voilà.
Eh ben ouais, ben, le modèle est toujours pas loin de toi. Hein.
Et ça, c'est donc le chapitre 2 consacré à Franco en musique, avec Hugo qui avait fort à faire avec Maxime en se disant le timing des morceaux, mais n'en déplaise aux plus jeunes, on en met des extraits et après vous
pouvez aller dans les boîtes. Non, mais il a appris vite, hein, le chant, il travaille.
Absolument, c'est un as du chant.
Voilà.
Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Chérie Kamikaze, photo pensant.
Africa Radio.
Bona bandegoy, na koma libre. Utanga na yoto swana bandeko kangelanga yelongie. Na koma libre, na koma libre.
La discothèque de Manu Dibango
sur Africa Radio.
Balikambo, yota la cimante. Okolo balikambo, yo banga batote. Bonanini ozalaka, très impudique. Okoko tananda kwa bato, oyoka sonite. Bonanini salaka bongoye. Nanda kwa bato beta porte te Olekani direct na chambre à coucher Bonanino salaka très impoli Bonanino salaka bongo Osokoli monokote olingi osolo la yona motoi Bonanino salaka mal levé
C'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Africa Radio 91.1 FM à Abidjan, 92.3 FM à Melun, 87.6 FM à Mantes-la-Jolie, sans parler du DAB+, à Strasbourg, à Lyon et à Lille.
Et bientôt, ce ne sera pas ici Londres. Ce sera... Ça risque d'être ici...
Brazzaville.
Voilà. Restez avec nous, vous en saurez davantage au fur et à mesure des semaines. Hein.
Et c'est évidemment du côté de la Mara qu'on va continuer notre voyage avec Franco et avec quelqu'un qui connaît ô combien les tubes de l'artiste.
Eh oui, à suivre.